Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Justin Bitakwira Biona Ai. Il est notable d'Uvira au Sud Kivu et homme politique congolais. Honorable Bitakwira, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne. C'est vrai que chez vous, à Uvira, vous êtes très populaire, très connu. Les Congolais, ils sont pas seulement à Uvira, ils sont partout. Et donc, on va vous faire découvrir auprès de tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC, sur la fréquence FM. On va commencer par une petite biographie de vous. Vous êtes né le 5 décembre 1960.
À Lemera,
au sud Kivu.
Mon village natal, c'est Katala.
Et donc, vous êtes né pendant l'année de l'indépendance, quoi, quand la RDC a accédé à son indépendance.
6 mois après.
Parlez-nous de votre enfance. Dans quelles conditions avez-vous grandi?
Je suis fils de paysan. Mon père était un agriculteur, un éleveur de vaches, comme mon grand-père. C'est un héritage.
Et c'est beaucoup d'argent, hein, les vaches?
Non, pas du tout. Je suis vraiment...
Bah, il paraît que c'est beaucoup d'argent au sud Kivu. Quand on élève des vaches, quand on en a beaucoup, 15, 20, c'est une fortune.
Oui, non, j'étais d'une famille modeste, pour ne pas l'appeler pauvre. Et mon enfance a été une enfance assez difficile. Parce que je suis un rescapé depuis le ventre de ma mère.
C'est-à-dire quoi? Expliquez-vous.
C'est-à-dire, quand ma mère a eu ma grossesse, mon grand frère, que je suivais, n'avait qu'à peu près 6 mois. Et chaque fois, les paysannes, quand elles allaient à l'apaiser, on se moquait toujours d'elles. On se moquait d'elles le long du chemin. Parce qu'elles devaient parcourir à peu près 12 kilomètres pour aller à l'apaiser. Donc, aller-retour, c'est 24 ans. Quitter Katala pour aller au centre, à l'hôpital de Lemera.
Avec un bébé en main et...
Un bébé en main et encore un gros grossesse. Et c'est ainsi qu'on lui avait proposé, les sages-femmes lui avaient proposé qu'il fallait avorter. Et comme mon père, en même temps, il était un petit commerçant, il voyageait beaucoup, et il a été absent pendant 3 semaines à la maison. Et c'est les jours même de son retour de son voyage que ma mère avait la dose de produits médical qu'une sage-femme lui avait donné
pour évacuer
la grossesse. Et c'est ainsi que, juste quand mon père dépose son bagage, il trouve sa femme avec un gobelet là en train de tourner pour que le boive. Comme ça, de façon inattendue, le premier réflexe de mon père, c'était de taper le gobelet
sans savoir ce qu'il y avait dans le gobelet,
ce qui était effectivement, et maintenant, et ma mère a avoué qu'effectivement, il avait une dose de médicaments pour évacuer ma grossesse.
Et c'est elle-même qui vous a raconté ça?
C'est ma mère qui m'a raconté ça. Et parce que mon père est mort à l'âge de... J'avais l'âge de 7 ans. Et il est mort dans des conditions très atroces. Gorgé vif pendant toutes les rébellions qui sévissaient à l'époque dans le Kivu, en 1967 déjà. Et donc, c'est ainsi que ma mère chaque fois me disait que j'étais un enfant exceptionnel. Et elle ne savait pas ce que j'adviendrais plus tard. Voilà.
Et quand elle vous a raconté ça, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça a eu quel effet sur vous?
Comme la sage-femme qui lui avait donné les produits, les produits étaient très efficaces. Et elle m'a dit qu'elle ne me dirait jamais le nom de la sage-femme là. Elle est morte sans que je sache le nom de la femme.
Et donc vous êtes orphelin de père et de mère. Bitakwira a une signification particulière, le nom Bitakwira?
Oui. Le nom de Bitakwira a une signification. Surtout Bitakwira Bihonahai. Le nom de Bitakwira a une signification particulière. D'abord étymologiquement. Étymologiquement, quand on partage, supposons les bananes, entre 4, 5, 6 personnes, et qu'il y ait 2 qui manquent, on va dire Itakwira. Donc les bananes n'ont pas suffi, il faut ajouter. C'est ça étymologiquement. Mais moi, le nom là, on me l'a donné parce qu'il y avait un riche homme au village qui s'appelait Bitakwira, le seul qui avait un véhicule dans le village. Alors à chaque fois qu'il passait avec son camion, tous les villageois criaient toujours Bitakwira, Bitakwira, Bitakwira. Et à ma naissance, mon père a souhaité que je porte le nom de Bitakwira, qui était un homme suffisamment populaire dans le village. Et heureusement, je suis aussi le seul qui ait 1 ou 2 ou 3 véhicules dans mon village.
Et populaire aussi.
Oui, je crois, suffisamment populaire. C'est pas moi de le dire. J'aime que d'autres témoignent à ma place.
Vous n'aimez pas trop qu'on aborde la question sur les diplômes, mais vous pouvez nous dire quand même quel genre d'études vous avez fait.
Oui, je ne dis pas que je n'aime pas qu'on aborde le problème de diplôme, pas du tout, mais seulement tous les invités congolais que je vois dans les télévisions, dans tous les médias, ils n'est pas ce que pour étaler leur diplôme. Et les diplômes aujourd'hui au Congo...
Est-ce que ce n'est pas une fierté d'étaler ces diplômes?
C'est une fierté, je vais en venir. Les diplômes au Congo, un pays aussi à genoux comme le nôtre, si réellement ces diplômes reflétaient l'essence d'intellectuel, ce pays ne serait pas arrivé là où il est. Donc, je considère les diplômes comme les grades militaires dans notre pays. Parce qu'il y a plus, d'officiers militaires que d'hommes de troupes. Et vous voyez à quel niveau notre armée est arrivée. Donc, si réellement le nombre de diplômes dans notre pays pouvait apporter un plus à la nation, je crois que nous serions les premiers. Mais toutefois, j'ai fait mon école primaire comme tous les enfants du village. Après, je suis allé au petit séminaire. J'ai terminé en...
Vous aviez des ambitions de devenir prêtre?
C'était ma première vocation de la vie. Malheureusement, ça n'a pas abouti. J'ai terminé en pédagogie générale. Et j'ai une formation, je suis dramaturge de formation.
Je comprends maintenant pourquoi vous aimez bien les proverbes.
Oui, les proverbes. Je suis resté dans mon village. Je parlais seulement ma langue maternelle jusqu'à l'âge de 14 ans. Et donc, je suis resté aux côtés de ma grand-mère et de mon grand-père. Ma grand-mère, d'ailleurs, qui est devenue une célébrité à l'Assemblée nationale, auprès de mon grand-père. Et vous savez, au village...
Elle est devenue une célébrité, comment ça?
Ma grand-mère, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça signifie le budget. Ça signifie le budget. On pourrait en parler un tout petit peu. Parce que beaucoup de gens, quand je parle de ma grand-mère, beaucoup ne comprennent pas pourquoi je le dis. Et après, je suis dans ma matrice de formation, et puis j'ai fait le développement communautaire au Cameroun, et j'ai fait le management. Donc, je suis un homme, je suis un tout, je suis un grand lecteur. Et d'ailleurs, tout mon revenu, pour la plupart, pour ceux qui me connaissent, pour tout mon revenu, à peu près 20%, j'engloutis ça dans la lecture des grands hommes, comme Mao Tse-tung, comme Luther King, comme Gandhi et autres. Donc, je suis un tout.
Tout à l'heure, vous avez dit que votre première vocation, c'était de devenir prêtre, mais pourquoi cela n'a pas abouti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a détourné de ce chemin?
Au fait, je crois que c'est un accident de parcours. Il y a eu un test qu'on a organisé dans les diocèses. Je suis catholique, je suis catholique. Et comme par hasard, je suis sorti premier à ce concours, dans tous les diocèses. Et c'est ainsi que, après la correction, les prêtres alignaient les enfants les plus intelligents. Alors, soit tu vas étudier dans un collège comme Alpha Diri à Bukavu, soit on t'envoie au petit séminaire, c'est le petit séminaire de Mungombe. Et c'est ainsi qu'effectivement, un soir, on voit des prêtres débarquer chez nous au village, tu vois un blanc qui arrive au village. J'étais au champ avec ma mère, on vient nous dire qu'il y a des blancs qui sont à la maison. Bon, c'était un blanc accompagné de quelqu'un. C'était pour venir informer ma mère que je venais d'être retenu pour aller étudier au séminaire. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. On a commencé à se renseigner, mon oncle maternel et mon oncle paternel, qui étaient des enseignants, ils en savaient quelque chose. C'est ainsi que ma mère a refusé catégoriquement. Elle ne pouvait pas lâcher son fils. Mon oncle, mes deux oncles là, se sont organisés pour venir convaincre ma mère que non, cet enfant, s'il va étudier dans les écoles, l'école des Blancs, peut-être que ça sera notre salut. Et ils n'avaient pas tort, heureusement. C'est ainsi que je suis allé au séminaire. Et quand j'ai terminé mes humanités, j'étais obligé d'aller au noviciat. Il y a eu un accident de parcours, comme je l'ai dit. Ça n'a pas abouti pour que je sois prêtre.
Mais vous ne parlez pas de cet accident-là?
Non, c'est vraiment un accident mineur. C'était aussi une manière de voir la vie, hein. Et je ne le regrette pas tellement. Je suis marié, père de 4 enfants, je crois que ça. J'aime beaucoup mes enfants. Je n'aimerais pas les avoir hors mariage.
Ah, d'accord. Alors, Justin, vite, Akwira, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Le souvenir qui m'a le plus marqué pendant mon enfance, c'est que j'ai été berger de chèvres, de vaches.
C'est l'activité principale, apparemment?
Oui. Effectivement, le conte autour du feu avec ma grand-mère. Et ce qui a retenu mon attention, c'est la capacité de solidarité au village.
Les gens sont très, très solidaires.
Et vous savez pourquoi j'ai appelé le budget la marmite de ma grand-mère? Parce que ma grand-mère, nous étions à peu près plus de 20 petits-fils. Ma grand-mère ne dormait jamais sans qu'elle se rende compte que tout le monde a mangé à sa faim. Au village, quand il y avait une dot d'une chèvre, de près d'autre ou d'autre, il y a une chèvre, si on l'égorge, c'est tout le village qui doit avoir chacun son morceau. Mais le symbole là, de partage, si les États africains pouvaient avoir comme modèle ce communautarisme là du village, si nos pays pouvaient copier que effectivement le revenu national doit arriver à chacun de ses fonctionnaires. Si les fonds alloués aux militaires, chacun doit avoir sa solde à destination. Au lieu que ça soit détourné, que ça construise des bâtiments ailleurs, sans que personne ne sanctionne. C'est ça notre malheur. C'est ça notre malheur. Donc, nous pensons qu'il faudrait avoir un modèle africain de gestion de nos ressources et de nos revenus au niveau national, tout comme au niveau provincial. C'est ça ce qui me marque moi dans ma vie.
Alors, Justin Bitakura, parlons de vos débuts dans la politique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique? Comment vous vous êtes retrouvé dedans?
Non, tout jeune, je ne le savais pas. Ça, je dois vous le dire, tout jeune, j'étais comme un révolté de la société. Je vous ai déjà dit que mon père est mort, il s'appelait Somora Mugambire. Mon père est mort égorgé vif. Et j'étais comme un révolté, que même tous les enseignants qui m'ont connu, j'étais un bon footballeur de football, tous les enseignants qui m'ont connu, des fois, en classe, j'ai rédigé des lettres contre tel enseignant, tel professeur. Et c'est par hasard d'ailleurs que j'ai pu terminer mes études. Parce que des fois, j'ai passé une semaine, 10 jours, en train de labourer la terre pendant que les autres sont en classe. Et chaque fois, on venait dire au préfet, on doit l'exclure de l'école, c'est le préfet. Il y a un préfet que je connais très bien, Ndaga Augustin. C'est le père du feu Massassou. C'était lui mon préfet des écoles secondaires. C'est lui qui venait toujours plaider pour qu'on ne me chasse pas. Non, il est intelligent.
Mais vous passiez 5-6 jours sans aller à l'école?
Non, c'est-à-dire, moi, le professeur refuse que je n'entre plus en classe.
Vous étiez trop bavard, dérangeur?
Pas dérangeur.
Agitateur?
Non, je n'étais pas agitateur. Ça m'arrivait seulement quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Je réagis. Et ce qui m'a encore plus révolté davantage, et que j'avais déjà 18 ans, on tient une conférence de l'école. J'étais parmi les gens qui pouvaient animer aussi des conférences, tout jeune. J'ai intervenu dans une conférence où j'ai stigmatisé le comportement des gens de ce qu'on appelait à l'époque Andé ou Sinip. On m'a arrêté. J'ai fait à peu près 15 jours. Arrêté comme quoi j'ai tenu un langage subversif. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Bon, ok. 15 jours, là, c'est de plaider. J'ai même failli rater mes examens.
Vous faites des choses sans savoir, sans connaître les conséquences qui peuvent arriver, sans savoir ce que c'est. Vous lancez comme ça.
J'ai subi ce que personne n'a jamais subi dans ce pays, madame. Le 5 août 2000, le 5 août 1987. C'est une date que je ne peux jamais oublier. Nous écrivons une lettre ouverte contre Mobutu.
Vous qui?
Un groupe de jeunes. J'étais à la tête. Pour essayer effectivement de démontrer que la situation n'allait pas. Et c'est moi qui suis chargé d'aller expédier la lettre à l'ambassade du Zaïre à Bujumbura au Burundi.
Vous êtes au Burundi?
Nous sommes voisins avec le Burundi. Mais c'est là où il y avait une ambassade la plus proche. Et nous pensions qu'en déposant une lettre à l'ambassade, ça doit arriver à destination.
Mais pourquoi à partir de chez vous là, vous ne l'avez pas envoyé directement à Kinshasa?
Non, ça ne pourrait pas arriver. Il n'y avait pas un canal aussi sûr comme l'ambassade. Il n'y en avait pas. Je suis allé déposer la lettre et plus tard, un ou deux mois après, je trouve un membre de l'ambassade effectivement qui me dit que non, on aurait répondu à votre correspondance, à votre courrier. Si vous voulez traverser encore à l'ambassade pour aller voir, bon, c'est l'ambassadeur qui sait de quoi il s'agit. Et il faut avoir la copie de la lettre ouverte. J'avais la copie de la lettre ouverte, c'était à Kiliba. Nous sommes allés voir un cousin qui travaillait comme agent de renseignement là-bas. Pour essayer de lui dire, de nous aider à faire traverser la lettre. Parce que si nous, on nous voit avec, on va croire que c'est une, c'est comme, sous forme d'une révolte. Au lieu qu'il nous aide, nous étions à deux. Il est allé signaler que nous avions de lettres subversives. Et à l'entrée, quand nous étions à la frontière, ce que j'ai fait, et que j'ai pris ces lettres, j'ai porté 3 chaussettes. J'ai mis les lettres sous les plantes de mes pieds. Comme il avait déjà signalé que nous avions des correspondances subversives, on a essayé de voir dans nos sacs qu'il n'y avait rien. On fouille dans les poches, il n'y a rien. On essaie de toucher ici aux chaussettes, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Nous, on a fini par traverser. Nous sommes déjà de l'autre côté. Il y a des militaires qui nous interpellent encore. Et dit, Bosonganan. Nous sommes rentrés. On est allé dire, enlevez les chaussettes. Nous enlevons les chaussettes. Enlevez les chaussettes. J'enlève la chaussette, le premier pied, là où il n'y a rien. Ils se rendent compte que j'ai 3 chaussettes. Dis, c'est quoi ça? Toi, tu portes 3 chaussettes. Pourquoi? Enlève l'autre. J'enlève l'autre. Et ils trouvent qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ça tombe. Ils sans lire. Il voit seulement adressé à Mobutu, c'est fini. Et on m'a arrêté pendant à peu près 3 mois. J'ai fini par évader.
Comment vous avez fait? Vous étiez arrêté où?
À Uvira. J'ai fini par évader, je suis venu à Bukavu pour me rendre moi-même.
Comment? Et
parce
qu'à
Uvira, j'ai été torturé comme jamais vu.
Comment vous avez fait pour vous évader? En complicité avec les gardiens de la prison?
Non, ils n'ont pas su parce que dans les 3 mois là, j'étais devenu le capitaine de la cellule. Et un moment, je pouvais dire au gardien militaire, parce qu'il savait que non, celui-ci, il a les problèmes avec Mobutu. Et bon, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, des fois, je leur disais que je pouvais aller en ville pour aller chercher à manger. Et effectivement, je me rendais en ville, on me laissait aller en ville, et je revenais avec 3-4 bières pour les militaires, et puis je dormais. C'était devenu une habitude. Après un moment, j'ai dit, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait ici? Parce qu'on m'avait déjà torturé. On m'a giflé dans mon oreille gauche. Ce n'est qu'en 2007 que mon oreille a été débouchée. En 2007. Depuis 87. En 2007. Pour 30 ans.
Après. À cause de la gifle?
Du sang. Du sang est sorti de l'autre, dans l'autre oreille. Comme de l'eau du robinet. Effectivement, après, j'ai évadé. Je suis allé me rendre.
Mais pourquoi vous êtes allé encore vous rendre puisque vous vous êtes évadé?
Non, je savais que je menais un combat noble. Et je voulais voir Mobutu, effectivement. Et j'allais lui dire comment il détruit la nation. J'allais lui dire.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir un jour?
Non, malheureusement. Il est mort sans que je le voie. Parce que je suis rentré de l'extérieur de mon exil en 98, quand Mobutu était déjà parti.
Et donc, c'est comme ça que vous vous êtes lancé dans la politique?
Et encore? J'ai adhéré à l'UDPS en 1983.
Clandestinement. Pourquoi?
Clandestinement parce que nous avions des amis qui travaillaient dans le corps de la paix, c'est des Américains, et ils avaient accès à certaines revues venant de Bruxelles particulièrement. Là, je me rappelle, c'était Demain les Zaïres. Il y avait un bulletin qui sortait chaque samedi, Demain les Zaïres, qui parlait effectivement des 13 parlementaires. Et pour les lire, il fallait les lire, porte fermée. Effectivement, je me suis intéressé, j'ai dit, désormais, moi aussi j'appartiens à l'UDPS pour soutenir les 13 parlementaires. En 83, imaginez-vous. J'avais effectivement 23 ans. Et puis, en 1990, lors du massacre de Lubumbashi, les étudiants de Lubumbashi, même le 24 avril, je dois vous dire, moi j'étais en prison encore. J'étais arrêté au Burundi, à Bujumbura, à la brigade spéciale de recherche, à partir du 8 mars. Donc, du 8 mars...
Pour avoir fait quoi encore?
Nous étions en train de vouloir mener une lutte armée contre Mobutu. Et j'en étais le chargé des relations extérieures.
Lutte armée, vous qui...
Et nous avions une organisation,
était,
madame.
Vous qui étiez contre le régime de Mobutu.
Oui, oui. Nous qui étions contre le régime, nous voulions faire une lutte armée contre Mobutu. On ne digérait plus. Et malheureusement, j'étais le seul. On est venu fouiller chez moi. On a attrapé beaucoup de correspondances séditieuses, on était en contact avec des amis qui étaient en Tanzanie, au Burundi, ainsi de suite. Et j'ai été arrêté le 8 mars 1990. Donc, jusqu'au 24 avril, j'étais toujours en prison parce qu'on devait nous extrader à Kinshasa le 28 avril. Heureusement, le 24 avril est arrivé. Au lieu qu'on nous extrade, on est resté en cellule. J'ai été libéré le 6 juin, grâce au Vatican. C'était le nonce apostolique du Burundi qui était un ami. À qui j'ai écrit une note à partir de ma cellule. Et j'étais informé quand même de ce qui s'est passé à l'extérieur. Les grands prisonniers comme nous avons des mécanismes de communication que je ne peux pas dire ici. Alors j'écrivais des correspondances et quand le nom s'est appris, avec détail, ce que j'étais devenu parce qu'il ne me cherchait pas où est-ce que j'étais. Il est allé voir le président de la République du Burundi pour expliquer que non, au Zaïre, il y a déjà la démocratie, pourquoi vous arrêtez encore les gens? Et le 6 juin, comme par hasard.
Vous avez été libéré.
Oui, oui, devant presque une cour martiale pour essayer de me demander effectivement. Et puis on m'a dit, non, vous êtes libéré, vous êtes un homme libre. Et le nonce apostolique m'a évacué pour Nairobi pour que j'aille me reposer.
Alors plusieurs fois prisonnier d'opinion sous Mobutu et sous Laurent Désiré Kabila, et même quand le régime de Kabila est arrivé, vous combattiez ce régime.
Oui, je dois d'abord vous dire que j'étais un anti-Afdel, jamais vu, un anti-Afdel.
Pourquoi? Puisque vous cherchiez à faire tomber le régime de Mobutu.
Non.
Alors il y a un régime qui vient, Laurent Désiré qui vient, qui renverse Mobutu, vous n'étiez toujours pas content?
Vous savez comment je suis revenu ici en RDC, madame? J'évoluais dans les mouvements panafricanistes au Cameroun, où je travaillais, où j'ai étudié. Et dans ces mouvements panafricanistes, j'ai un professeur qui était un grand ami à moi, Maurice Tadadieu. Un jour, nous venons d'une conférence, c'est pas où, à Burkina Faso, où j'ai animé des conférences. Et sincèrement, partout où nous allions, ça je dois vous le dire, j'étais comme une vedette à chacune de mes interventions. Partout où j'allais. Alors un jour, il m'appelle chez lui à la maison pour me poser la question. Justin, Mobutu n'est plus au Zaïre. Est-ce que tu peux pas rentrer chez toi? Parce que si tu fais quoi? Tu ne seras jamais rien ici. Oh, j'ai dit, mais mon cher, comment? J'ai du boulot. Quel boulot? Et l'idée m'est venue. Je n'ai pas fait un mois. J'ai coupé tout ce que je faisais. Et je suis venu ici. Là où la fidèle sévissait. Parce que moi, étant de la sous-région des Grands Lacs, j'ai trouvé beaucoup de gens que j'ai enseignés au Burundi. J'ai trouvé ici, eux qui commandaient. Et certains qui me connaissaient, ils m'ont demandé, bon, je suis venu ici, je ne peux pas vous dire dans quelles conditions, avec une identité autre que celle congolaise. J'étais habillé comme un Sénégalais en Gandoura. Parce que la plupart de ceux qui étaient ici devraient me connaître. Mais beaucoup me connaissaient des noms, ils ne pouvaient pas me connaître de visage. C'est comme ça que je suis entré ici, en 98. C'était au mois de février.
Ici à
Kinshasa.
À Kinshasa.
Oui, oui. Je me rappelle même quand j'ai atterri
Mais pourquoi vous vous êtes déguisé pour venir à Kinshasa?
Je savais que ceux qui occupaient le pays ici me connaissaient très bien. Ils savaient qui j'étais dans le Kivu. Ils savaient qui j'étais. Parce que dans les mouvements de l'UDPS, j'étais parmi les célébrités. Avec le Charles Magabe, l'ancien gouverneur qui est déjà décédé, le Jean-Pierre Biringaniné et autres. J'étais connu. Mais des visages, beaucoup ne me connaissaient pas. Mais des noms, on me connaît. Et donc, je savais qu'une fois ici, si je ne suis pas prudent, je serai le premier à être abattu. Ça, je le savais.
Mais vous êtes venu faire quoi, Kinshasa?
Je suis venu par avion.
Vous êtes venu faire quoi?
Je suis venu faire la lutte politique. Et nous l'avons menée, ça je voulais dire. Et ce n'est qu'au 27 juillet, quand Mouzé décide de demander aux Rwandais de rentrer chez eux, on va payer la facture. C'est là où nous avons rejoint Mouzé pour essayer de l'appuyer.
Laurent Désiré arrive, vous êtes un anti-FDL. Et quand il a des problèmes avec ceux qui l'ont accompagné pour renverser le régime de Mobutu, vous vous alliez à lui. Quoi ce changement de...
Ce changement a été fondé. C'était un sentiment de patriotisme. Vous savez, même votre enfant...
Mais puisque eux qui étaient au pouvoir, vous recherchez, vous connaissez de nom, même si vous ne connaissez pas des vues, vous connaissez de nom.
Ouais.
Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous vous êtes déguisé parce que vous aviez peur qu'en arrivant ici, qu'on puisse vous abattre.
Effectivement.
Donc et puis les mêmes personnes ont accepté de travailler avec vous.
Non, j'ai dit, beaucoup étaient déjà partis.
Radio Capi, grand témoin.
L'invité des grands témoins aujourd'hui est Justin Bitakwira Bihonahai. Il est notable de Sud-Kivu et homme politique congolais. Honorable Justin Bitakwira, avant de parler actualité, on va souffler un peu. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter la musique?
Oui, j'aime beaucoup la musique.
Quel genre de musique? Le folklore de chez vous vient la musique moderne?
D'abord, je suis comme un griot au village. J'aime bien ma musique traditionnelle. Mais mon plus grand ami, c'est Tchafa Kodi, Alpha Blondy. Ces derniers temps, je suis Kofi avec son vieux chinois. Mais je ressemble un peu
vous
à...
Vous savez bien.
Je ressemble un peu à qui? Mon ami ici qui fait les proverbes comme moi. Oazekwa. Je ressemble un peu à Oazekwa. Et j'ai toujours dit à tous les musiciens qui veulent changer ce pays à travers leur musique, de me contacter pour que je le fasse des compositions. Ce pays pourrait changer.
Ah, vous êtes un grand compositeur en plus.
Je suis non seulement dramaturge, un conservateur africain, un panafricaniste, mais je suis quelqu'un qui veut changer la société complètement. Et ce pays, vous savez pourquoi ce pays est ruiné? C'est parce que la plus grande richesse d'une nation, c'est sa population. Maintenant, la population est abandonnée à elle-même. À partir de 9h, même à 8h, il y a plus de 5 000 soulards à Bandal ou à Massina. On ne réglemente pas la consommation de l'alcool. Il faut envoyer le peuple au travail. Tous ces bras-là, qui périssent inutilement, on n'envoie pas les gens au travail. C'est le rôle du pouvoir. Et nous, en 2016, nous l'espérons bien, s'il y a alternance, vous verrez comment ce pays pourra changer.
Alors, une chanson que vous voulez qu'on vous propose pour vous faire plaisir, honorable Justin Bitakwira.
Vieux chinois.
Vous connaissez les paroles?
Oui, un tout petit peu, mais je ne pourrais pas chanter. Mais
pourquoi?
Vieux chinois, et j'aime bien.
Ok, on va vous proposer la chanson vieux chinois de Koffi Olomide.
Nganga ta formé mona na ye. Atika la toujours na secret moko to mi balé pona ye moko.
Na moko koli koko Claudia na nzoto sembe ko le katina berswa miekese
Elengina yere kia kaviara rusi Obali ya kana peti Apeti nanga yu 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 Ndoto nanga ikia Claudia Sasu
Apeti nanga yu yu yu
Ndoto nanga Claudia itualeta Magie des épices et des verrues Nga inzo tout juste avant la nuit
Nala la bien
Mitsubie Amour mystification
Chantal Louema
Capotable pendant mon aïe Claudia Iki Asasu. Comment séparer le texte du contexte? Claudia Asasu, moi si à sourire et maï diamant.
À propos d'amour, naïo et atteindre fusion sentimentale.
Origine ragno, ma sentiment. A Kosuka wapina bolingo. Et ama, mama.
Étoile d'état.
Appétit n'a yo yo yo. Ndoto nanga Claudia Sasu Apeti nanga ye
Simba, simba, simba na shiri Tati ina nako kweya Kula nangu nitibe anali wazi Si, 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 twali, twali
Simba, simba, simba na shiri Sila wali mwe katani
Katani
Kukomu kita na desanti
Willy Carlos. Vincent Gomez.
Simba, 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 ma chérie. Simba, wali mwe katani. Kono kita na desansi. Sera wadu la shema prise. Mata mwe salu basha. Tua bide la mke. Soto mo bide ni mane. Kasi kuwa ebe tibate. Ne katana e. Ne pasu katoni.
Sera
wape ma e.
Leader something on me. Que la foudre, belle d'Anna Toulouse, Lucie a écoulé.
Le 27, le 28, un chéri, locataire à l'autre, colo, pango. Toko la laisse, il est l'ingé, comme on s'est pas confondu.
Un
plaisir est foutu, ma waï, quoi qu'il m'en a pas quitté. Quand la nuit n'y passe, la bouillée de Chima. Pote ma saca, la sauce, et quoi, il est l'ingé, confuta. Quel est l'eau, qui m'était de Chima.
Guillaume Sourou, DG Bogota, Hassan Foukou, Ahmed Bakayoko, ministre d'État.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Justin Bitakwira, notable du Sud Kivu et homme politique congolais. Alors, honorable Justin Bitakwira, en parlait avant cette chanson de Kofi qui vous a sûrement fait plaisir. On parlait de vos relations avec l'AFDL. Si je vous comprends bien, vous étiez anti-AFDL parce que Laurent Désiré Kabila était venu avec
des Ougandais, des Érythréens, des Rwandais, des Burundais.
Force externe, ouais. Là, vous étiez anti. Et lorsqu'il est, il s'est débarrassé de ces gens-là, vous avez commencé à, vous avez adhéré à son idéologie ou à sa vision politique.
Oui, j'ai adhéré à sa vision politique. J'étais combattu par son entourage, mais j'ai eu la chance, un certain 22 avril 2000, d'être reçu au Palais de la Nation. J'étais accompagné de plus de 15 000 personnes devant Mzee. Je lui ai fait un discours.
Vous êtes allé là-bas en tant que qui?
Non, j'avais une structure que je dirigeais. Il nous a reçus solennellement, j'en étais le coordonnateur national. Et je lui ai fait un discours, lui-même a répondu. Depuis qu'il était au pouvoir, il n'avait jamais entendu un discours aussi patriotique que celui-là.
C'était
pas un discours flatteur. Je ne flatte jamais.
Pour qu'il vous donne un poste?
Non, pas du tout. C'est pas du tout. J'ai été combattu. Et malheureusement, quand je vous dis que j'ai été arrêté à Kinimazière, à la DEMIAP, c'était pourquoi? C'était parce que j'ai organisé une grande marche, jamais vue en République démocratique du Congo, contre les mandats d'arrêt international lancés contre Herodia. Ceux qui ont tué, ils n'ont pas de mandat d'arrêt international. Ceux qui auraient injurié, semble-t-il, c'est à qui il faut lancer le mandat international. C'était à l'ambassade de Belgique. C'était le 12 juillet 2000. Et c'est un certain entourage de Mzee qui ne l'aimait pas, tout en le suçant, ont comploté pour m'arrêter. Que moi, j'ai fait une manifestation à l'ambassade de Belgique. Et si aujourd'hui, Herodia est témoin, parce qu'il sait qu'il ne m'a pas remis un seul sou. Mais nous avons réuni plus de 50 000 manifestants. Nous avons bouclé toute la rue ici, ici à la régie des eaux. On est venu nous disperser avec la police, qu'on ne manifeste pas contre le mandat d'arrêt international. C'est Mzee lui-même qui a autorisé. Il était à Lubumbashi. Il a donné le téléphone à un colonel Kasongo, qui est ici, dans la ville. Il y a aussi le colonel Raus, qui est aujourd'hui général. Ils savent très bien. Comment j'ai organisé une manifestation contre le mandat d'arrêt international à l'ambassade de Belgique le 12 juillet 2000. Et après, ils ont comploté pour faire des BI, que moi, la Sabena venait de quitter le Congo, ils sont partis maintenant au Cameroun, le Suisseur est parti à cause de moi.
À cause de la marche.
Une marche de libération, madame. Imaginez-vous, Herodia, qui défendait la République. Ceux qui ont tué ils n'ont pas de mandat d'arrêt international. Et effectivement, la Belgique a cédé à la pression. Et un jour, Herodia m'a dit que les amis de Belgique sont venus me dire « Non, il faut dire à vos gens, là, il n'y a plus de problème, on va voir. » Est-ce que vous entendez encore parler de ça? Jamais.
En 2006, vous êtes élu député national de la majorité.
Oui, j'étais dans le Parti congolais pour la bonne gouvernance, mm-hmm. Parti qui appartenait à la majorité. Mais moi, individuellement, mon comportement à l'Assemblée nationale ne ressemblait à rien. De quelqu'un
vous
de la majorité.
Vous étiez de la majorité quand même.
Oui, physiquement, mais pas idéologiquement ni psychologiquement.
Mais pourquoi vous avez adhéré à la majorité alors?
C'est mon parti.
Mais vous pouviez quitter le parti, vous n'étiez pas obligé de rester dans ce parti.
Pour perdre mon mandat.
Alors vous aviez eu peur de perdre le mandat, c'est ça?
C'est un mandat que le peuple m'a donné.
Ben vous pouviez continuer la lutte en dehors des institutions.
Pas du tout. Un représentant du peuple, c'est un représentant du peuple. Vous savez tout ce que j'ai mené comme lutte ici? Je n'ai eu aucune responsabilité, nulle part. C'est les villageois de chez moi qui m'ont donné l'emploi à l'Assemblée nationale. Et ils sont fiers de moi. Très fiers. Ils sont très fiers de moi. Je vous ai dit que j'ai fait le développement communautaire pendant mon mandat passé. Vous allez vérifier chez moi, à Ouvira, dans les moyens plateaux. J'organise des champs communautaires. Je distribue les roues. J'ai pas de tracteurs à donner. J'organise des centres d'alphabétisation pour que les gens sachent lire et écrire. Le mandat passé, j'ai pas eu moins de, à peu près 20 à 25 champs communautaires. J'ai à peu près une quinzaine de centres d'alphabétisation où je dois acheter des cahiers, des bics à tout le monde pour essayer de lire. Parce que je connais les conditions dans lesquelles moi j'ai grandi. C'est des conditions très pénibles.
Alors, on peut donner raison à ceux qui pensent que les députés, ils sont là pour leurs propres intérêts. Parce que vous dites que si j'avais quitté la majorité, j'allais perdre mon mandat. Votre voix, qu'est-ce que ça allait porter comme fruit au sein de la majorité, seul? Vous êtes seul contre tout ce monde-là?
Non, je ne suis pas seul. Ceux qui me connaissent savent effectivement que mon comportement à la majorité ressemblait plus à l'opposition qu'à la majorité. Parce que à la majorité
ça va,
passée...
Ça ne vous a pas créé des problèmes au sein de la majorité?
Non, pas du tout. À la majorité passée, il n'y a pas de concertation. On ne discute sur rien. Je suis parmi les rares qui ont refusé de signer la révision de la Constitution. Et je suis le seul réélu du territoire d'Ouvira. Le seul réélu du territoire d'Ouvira. Or, si vous allez voir ceux qui ont révisé la Constitution, on est pris deux tours, il faut maintenant un seul tour, c'est des prisonniers. C'est des prisonniers moraux. Et beaucoup sont tombés. Donc pour moi, je me disais que je ne peux faire que quelque chose que ma conscience m'autorise. Et je ne voulais pas dire que je dirige l'école nationale du parti, l'Union pour la Nation Congolaise.
Oui, aujourd'hui vous êtes
Académie
dans...
Congo Conscience
aujourd'hui
et Développement.
Vous êtes, aujourd'hui vous êtes
dans, le recteur.
Dans l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ces changements de la majorité à l'opposition?
D'abord, comme je vous l'ai dit, mon comportement ne ressemblait plus à quelqu'un de la majorité. Nous étions diamétralement opposés pour plusieurs raisons. Il y avait d'abord la question de l'Est, qui a opposé Vital Kamerhe au pouvoir. Et moi, j'en étais presque son porte-parole pour défendre cette cause-là. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'était prévisible. Et donc, déjà, et la révision de la Constitution.
C'est parce que Vital Kamerhe a quitté la majorité que vous l'avez suivi?
Non,
parce que c'est votre frère du
Sud. C'est pas nous qui avons suivi Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui nous a suivis dans les positions que nous avions à l'Assemblée nationale. Et comme c'était un gros baobab, nous avons dit voilà un meilleur joueur qu'on pourchasse dans l'autre équipe. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est de le mettre notre capitaine. Et c'est ça le combat. Nous sommes sur le chemin du Sénégal, madame. Ne vous en faites pas.
Alors, Justin Bitakwira, un mot sur la situation sécuritaire qui sévit actuellement dans la partie est du pays. Vous êtes député national, vous avez organisé un débat à huis clos. La population était privée de ce débat. Tout le monde voulait savoir ce qui se passe finalement au Nord Kivu. Malheureusement, vous nous avez privés de suivre les débats à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez cette situation?
Pour être honnête intellectuellement et politiquement, au début, j'avais soutenu que la question se passe à huis clos parce qu'il y aurait des ministres pour qu'on leur dise ce qui ne s'est jamais dit sur ce qui se passe à l'Est. Et que pour des raisons d'efficacité, nous pourrions trouver des résolutions et que le gouvernement adhère à la position du peuple. Parce que le gouvernement, le pouvoir de Kinshasa, navigue à contre-courant de l'opinion congolaise sur cette question de l'Est. Et vous savez, madame, c'est André Frossard qui l'a dit. Que quand un gouvernement se trompe, il n'a qu'une solution. Persévérer dans l'erreur. C'est ce qui se passe dans le pouvoir de Kinshasa ici. Qu'est-ce qui se passe à l'Est, au juste? Depuis 1994, 96, 98, le RCD, l'AFDEL d'abord, et puis le RCD, prend le pouvoir. À l'Est, la manière dont se comportaient les Rwandais là-bas, c'était des Congolais devenus comme des esclaves. On pouvait même te faire porter un chapeau. Tu ne le mets pas sur ta tête. Tu pars avec la main. 40 kilomètres. Il trouve quelqu'un d'autre. Un autre prend ce chapeau-là. Il fait aussi 30 autres kilomètres. Avec un chapeau en main. Donc il y avait des choses inimaginables qui se passaient.
Vous avez vécu ça ou on vous a raconté?
Et pas, mais madame, vous savez, j'ai perdu combien de membres de famille dans cette opération? Depuis 96 aujourd'hui. Beaucoup. Ma famille est presque exterminée, ça je vous l'ai dit. Et donc, maintenant, il y a eu une résistance à l'est du Congo. Donc, des Congolais qui se lèvent pour résister contre l'envahisseur. Le pouvoir, dans un début, timidement, a commencé à soutenir cette résistance. Je dis bien timidement. Et puis, il arrive un moment, quand nous sommes morts, on va de négociation en négociation, on fait le brassage. On fait le brassage, après on fait le mixage, après le mixage c'est le brassage, après c'est l'intégration, Madame, maintenant qu'on se rend compte de quoi? On se rend compte que le pouvoir est en train de former une armée au Kivu qui ne ressemble pas à l'armée congolaise. Donc tous les criminels dans les deux Kivu, tous les criminels, tous ceux qui ont tué, comme si on te posait la question, tu as déjà tué combien de Congolais? J'en ai tué 1000, tu deviens général. Et toi, 800, colonel. Et toi, 200, capitaine.
Est-ce que ce ne sont pas là des accusations gratuites que vous êtes en train de faire?
C'est le décor que le pouvoir a planté là-bas. Nous avons écrit des mémos et des mémos. Nous avons rencontré même le chef de l'État à plusieurs reprises pour dire, au sommet de voir, regardez les pistes de solutions. On est descendu même avec le ministre de la Défense pour aller lui expliquer. Il n'y aura pas d'armée en République démocratique du Congo tant que ceux qui ont résister contre l'envahisseur ne sont pas intégrés dans l'armée et qu'on leur donne le poste de commandement. Les Kayamba, les Abouloni, les Aboudou, je ne sais pas, ils sont nombreux. On a désintéressé à l'armée, complètement. Et ce sont les criminels, finalement, qu'on a mis à la place des résistants. Et dans tout coin, et recoin, de qui vous allez au nord comme au sud, vous allez trouver, il y a quelqu'un. Le CNDP n'existait même pas au sud qui vous. On a donné au CNDP gratuitement. Sans combat, sans effort, on lui a donné le site qui vous. Directement. En commençant par le Nord Katanga, ou Fizi, jusqu'à Nituri. Tu comprends, madame? Et c'est la raison pour laquelle je dis quand un gouvernement se trompe, il n'a qu'une solution. Persévérer dans l'erreur. Je disais une revue tout à l'heure, hein, où la jeune Afrique essaie de faire l'analyse sur ce qui se passe à l'Est avec Makenga et consorts. Et puis il arrive à un point où il dit, un proche collaborateur du président Joseph Kabila ne dément pas. La communauté internationale nous a imposé d'intégrer des mutins et des rebelles sans formation. Cela a été un coup fatal. De fait, les grades ont été généreusement distribués à d'ex-chefs de guerre, dont la principale occupation a consisté à détourner les soldes versés à la troupe. Donc, ce qui se passe à l'Est, c'est connu de tous qu'il y a une main noire à Kinshasa, dans l'armée, qui sait placer quel chef de guerre à tel endroit. Et que tous les gens qui
si
sont...
Si je comprends bien, c'est qu'il y a une complicité.
Très élevée.
À tous les niveaux, au niveau
national. Et tant qu'on n'aura pas procédé à une mutation générale, que tout celui qui se prétend être congolais, et sous les drapeaux du Congo, il porte l'uniforme du Congo, comme soldat, il ne peut pas aller au Bandundu, au Kasaï, au Bas-Congo, à l'Équateur et qu'on sort. C'est pas un militaire.
Et donc, pour vous, la permutation, c'est, reste la seule solution pour mettre fin à cette situation qui se vit à l'Est.
Et tous les anciens compagnons, des rebelles, qui ont des postes de responsabilité très importantes. Il faut qu'ils soient déposés. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe à l'Est. On peut ne pas le dire ici. Et moi, j'ai tout dit.
Et tant que ces gens seront là, la situation va perdurer, va continuer.
Le pouvoir de Kabila finira par tomber, ça c'est sûr. Et l'alternance finira par venir.
Nous sommes à la fin de notre entretien, honorable Justin Bitakwira. Un mot à tous ces auditeurs qui nous suivent partout en RDC, sur la fréquence FM et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, nous ne sommes pas le seul peuple à subir ce que nous subissons. Et chaque chose a son temps. La vie, c'est comme du théâtre. Chacun joue son rôle et s'en va. Celui qui veut marquer l'histoire n'a qu'à faire du bien au peuple. N'a qu'à transformer la société. Sinon, son nom sera marqué en noir. Son nom sera marqué en noir. Et pas en boule d'or. Avant-hier, c'était Mobutu. Hier, c'était Mzé. Aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. L'histoire garde une fiche dans un box. Et le dernier jour, comme dit Patrice, tribunal est en Zambé et Kozala. Et tant que nous resterons à genoux devant le Rwanda, les dirigeants ne sont même pas capables de le condamner. Nous avons lu l'accord d'Addis Abeba. Il n'y a aucune condamnation. Nous regrettons. Merci.
Merci, honorable Justin Bitakwira. Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Justin Bitakwira Bihonahai, notable du Sud Kivu et homme politique congolais. Merci à Jean-Claude Tiala et Sylvain Matundu qui est à la technique au micro, qui l'écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.